La question des migrants n'était pas un peu plombée à la fin par la question des attentats qui sont liés et qui sont beaucoup plus fréquents avant cette venue des migrants. Une deuxième question.
J'ai entendu dire, j'ai lu un article, c'est une tradition sur le courrier international de Bert Hegel, qui disait que Rivière Marcel avait une approche pragmatique, c'était de se dire, l'immigration est une richesse, il semble chez nous que dans les pays voisins. On aperçoit toujours l'immigration comme une dépense. Rivière Marcel, dans certaines conférences, a dit pour l'Allemagne, c'est une richesse.
En prenant en compte quand même une réalité qui serait prégnante aussi dans notre secteur, dans notre région, hein, le bassin industriel en Suisse quand même, bon, avec un taux de chômage de 15% sur Montbéliard par exemple, avec une histoire de l'immigration quand même très lourde, hein, puisque 27,5% de la population de Montbéliard est issue d'immigration. Donc, c'est un des taux les plus élevés de France, sinon le plus élevé de France pour une ville moyenne de 30 000 habitants. Et troisièmement, l'identité soucieuse du français, c'est-à-dire cette crise identitaire qui pèse quand même et qui fait que la peur, elle est d'abord celle de notre interrogation, justifiée ou pas justifiée, hein, sur ce que nous sommes et ce que nous sommes. Donc, c'est une identité soucieuse, comme à minima, comme je ne sais plus. Donc c'est un ensemble de causes qu'on a mis.
Il y a encore une demande.
Vous avez parlé des étrangers qui viennent en France, pardon, c'est votre participant. Il y a combien de Français qui vont à l'étranger?
L'exception du grand, c'est le baronatisme. Pourquoi on ne les voit pas tout de même aspect? Nos enfants, les plus enfants qui vont à l'étranger, trouvent tout à fait normal de trouver un boulot. Et c'est comment cette différence, c'est comment on veut porter ça, quoi.
La question du contexte des attentats est généralement de l'extrémisme islamiste qui effraie le monde entier. Hein. Ça revient très souvent parce que l'exode par l'Irak et de Syrie précisément cet islamisme et que il y en a qui il y a eu quelques personnes qui étaient infiltrées. Donc on comprend bien que la tentation, la peur de se dire peut-être parmi eux il va y avoir des terroristes infiltrés, c'est facile. C'est revenu très souvent, c'est pas impossible, mais en ce qui concerne la France, vous savez tous, les auteurs d'attentats étaient français ou belges. Ils étaient pas. Voilà, c'est ça. Ils étaient influencés par l'extérieur, bien sûr. Mais ils ne font pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas certains qui ont cette stratégie de s'infiltrer, etc. Ça me semble être une probabilité, comme on a tous la probabilité de se faire écraser par une voiture en sortant. C'est un film parce que l'essentiel, la très grande majorité de ce que je disais, qui fuient précisément ces islamistes-là. Alors il y en a certains qui peuvent avoir joué un double jeu, tout ça, bien sûr, non. On ne peut pas dire qu'il y a zéro risque. Ceux qui disent qu'il y a zéro risque, c'est impossible, c'est interdit. La preuve, c'est que parmi nos terroristes qui ont agi en France, il y en a un certain nombre, on n'aurait jamais soupçonné qu'ils allaient faire ça, etc. On ne peut pas prévoir tout ça. Mais la tentation d'amalgame liée à la peur des attentats, certainement a joué. Elle a joué encore bien plus en Allemagne après les événements de Cologne. Parce que là, c'était un peu plus collectif, et puis ça touchait quelque chose, les Arabes violeurs, enfin, les stéréotypes, on en a, hein, qui sont beaucoup ressortis. Face à ces peurs qui sont normales. C'est normal que les gens réagissent comme ça. Il semble que l'effort doit être de prendre une certaine distance pour ne pas globaliser des incidents, de faire porter un fait à toute une population. Quand un crime affreux est commis par un Breton, on n'en déduit pas que tous les Bretons sont. Il n'empêche que c'est cette tentation de généraliser quand il s'agit d'étrangers ou de bouquetaires qui est dangereuse et dont il faut être conscient. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de réflexions de la part de responsables musulmans, qu'ils soient religieux ou de culture musulmane, pour eux-mêmes faire face à ce regard qui est porté sur eux, et donc ils sont les premières victimes, et ils en sont aussi encore plus choqués que nous pouvons l'être, parce que ce sont des fous furieux qui agissent de cette sorte au nom, j'ai entendu ce matin, c'est au nom du même Dieu que moi. Comme nous, ceux d'entre nous qui sont chrétiens, le Ku Klux Klan, il avait la Bible à la main aussi, hein. On se sent pas, on n'aimerait pas qu'on nous dise, regardez les chrétiens, vous brûlez ce rapport des proportions qu'on parlait même actuellement, mais c'est un petit peu ce même type de regard. Et là, travailler avec les musulmans qui essaient de prendre cette réalité, de ne pas les laisser tout seuls en leur disant « Ah, est-ce que vous condamnez le terrorisme ?» Mais de voir avec eux comment on peut ensemble essayer de faire changer ça, c'est une des grandes questions actuelles, hein, vraiment. Vraiment. C'est ça que vous avez ajouté, parce que vous avez ajouté un musulman dans votre. Deux fois, c'est ça. Ensuite, l'Allemagne aurait, Mme Merkel aurait ouvert grand les portes, parce qu'elle a fait un calcul qui en espérait de. On a beaucoup de discussions sur ça. Ce qui semble, d'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas parler avec Mme Merkel, qui va dans sa tête, mais ce qui semble, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Il y a certainement eu, chez Angela Merkel comme personne, une conviction liée à ses origines, etc., que quand les gens suivent les guerres et sont dans les misères, on ne peut pas ne rester sans rien faire. Elle a eu certainement une espèce de réaction d'ordre moral. Si ça je ne sais pas si M. Hollande a fait tout ça, mais en tout cas, il n'est pas allé plus loin. Si elle est allée plus loin, c'est que cette force morale existait en Allemagne aussi. Le poids des églises, catholiques, protestantes, l'importance des réseaux de solidarité liés au monde chrétien, c'est très important. Et donc, si elle a dit ses convictions, c'est aussi qu'elle savait que c'était partagé par beaucoup de monde. Sinon, elle n'aurait pas pu. Elle l'aurait dit penser pour elle-même, peut-être, mais elle ne se serait pas engagée. En fait, il y a un fond de. Et on l'a dit, ce souci de donner au monde une image de l'Allemagne un peu moins affreuse que celle qui est traînée par l'histoire et par l'attitude de la même Mme Merkel face aux Grecs aussi. Elle veut changer l'image de l'Allemagne, je pense, par ce jour aussi. Les questions économiques sont d'abord des questions de démocratie. Elle a fait, enfin, donc, il y a un calcul, que Mme Lefebvre, elle perd du monde. Hein. Donc, pour rester un grand pays, il faut des forces jeunes. Et donc, dans l'immigration qu'ils ont accueillie, il y a beaucoup, y compris de compétences et de qualifications, qui vont enrichir l'Allemagne. Réduire, je pense que, il me semble, que réduire l'attitude de Mme Merkel, du gouvernement Merkel, au seul argument utilitariste, me semble pas juste. Comme par naïf, non, hein, elle a pas fait ça, non, sur ça. Cet argument pouvait exister. La façon dont elle l'a présenté est presque justement, si elle avait fait plus de calcul, peut-être que ça aurait été mieux préparé, parce qu'il y a un homme qui a géré l'intégration. 1 million de personnes qui arrivent en 1 an, c'est beaucoup. C'est très absorbable. Dans des grands pays, c'est bien sûr très performant. Mais en si peu de temps, vous n'en parlez pas la langue, etc. C'est logé, oui. Troisième question, le chômage, c'est une vraie question, ça. C'est une question où j'ai pas de réponse régionale ou locale. Si dans une région, il y a la conjonction. J'ai des craintes dans le président des arrêtements. La convention d'un très fort taux de chômage et d'une forte population immigrée pour le chômage, c'est vrai que rajouter des personnes qui ont besoin au démarrage d'un accompagnement, c'est sûr, sinon, c'est vrai que c'est plus compliqué à faire venir. Sauf si, mais peut-être que là les proportions sont trop fortes. Je ne sais pas bien, mais il me semble que là les proportions sont trop fortes. D'un point de vue général, et là encore, c'est des économistes qui disent ça. L'arrivée de nouvelles personnes sur le marché du travail ne doit pas être pensée comme il y a un marché du travail qui a un gâteau, fermé, là, fini, et puis ce qu'il y a deux ans, on va se couper en faisant de plus grandes salles. Des personnes nouvelles créent aussi, agrandissent le gâteau. C'est pas simplement c'est le même, on va se couper en plus de salles, on ne va pas aller, c'est ça agrandit le gâteau. Comment ? Voilà, le boulanger ne fait en plus de salles. Et puis il y a plus de boulangers, et puis il y a des gens qui vont venir boulanger dans les endroits où on n'allait jamais, et puis il y a des gens qui vont venir garager dans des endroits où on n'allait pas. Il n'y a pas que des ingénieurs et des médecins, hein, c'est bien. Attention, on a fait de l'image du village aussi. Hein. Il y a toutes sortes de qualifications aussi, et de compétences. Ressentons, il y en a des gens qui arrivent avec quelque chose, mais comme de. C'est pas mira que si c'est accompagné comme il faut au départ. Mais c'est vrai qu'il faut être très attentif à ce que je disais, et nous travaillons avec la Pédicamon, par exemple, très attentif, vraiment, à ne pas opposer les pauvres aux pauvres. Ça, c'est, il n'y a rien de tel pour accroître les fractures et probablement donner des voix au fond national. Les gens qui sont des laissés frustrés, et cette impression qu'on ne s'occupe pas d'eux et qu'on s'occupe des autres. Et qui peut être pas faux, hein. Mais le problème, c'est que ce n'est pas en s'occupant pas des demandeurs d'asile, on va profiter mieux des chômeurs, des gens en fin de droit, etc. On sait très bien que ce n'est pas en traitant mal des gens, on va mieux traiter les autres. On traite mal les deux. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut traiter mieux les deux dans l'intérêt de tout le monde. Et que c'est une revendication à remettre en fait sur le... Mais c'est une question de l'ensemble de la société, sur l'ensemble de la société. Je vais vous donner une nouvelle phrase d'identité soucieuse de la France. Peut-être que si on fait si mal à devenir actuellement, c'est terrible de penser. Moi, ça m'a beaucoup ouvert à Cali en particulier. L'image que beaucoup de les étrangers de cet exode ont de la France, où on s'imagine que tout le rêve c'est une chose dans sa vie de venir en France, en fait, l'image de la France est un image d'un pays inhospitalier. C'est difficile à réaliser, c'est ce qu'on leur renvoie. Et peut-être que si on leur renvoie cette mauvaise image, ben c'est qu'on n'est pas bien avec notre image, notre image aussi. Et que le pari, et peut-être l'insistance pour ces élus sur le fait que c'est un poids de société, c'est que plus on recroquevillera, on se recroquevillera sur des peurs, sur des territoires fermés. On va nous enfermer, par contre. Certains proposent, si vous voulez, proposent maintenant de remettre les contrôles et de fermer toutes les frontières, de retrouver, on va tous se retrouver autour des dossiers. Ben, c'est sûr qu'on va aller là, hein. Ben, c'est sûr que les choses vont aller de ralentir si on continue comme ça. Et c'est quand on fait l'apprentissage de relations réussies qu'on va mieux. Je discutais avec une femme qui est partie parce qu'elle était fatiguée, qui était d'un des villages de votre région, et puis dans son nom. Il y a eu un centre d'accueil. Voilà. Et à quel point elle disait que pour elle, ça l'avait transformé. Et les gens qui ont accueilli, ça transforme, ça ouvre, ça donne de l'oxygène. On respire aussi. On s'ouvre un peu de notre petit enfermement qui peut devenir moisi. Quand on se rend compte que c'est l'enfermé de porte fermée, ça prend une moisi après le rang. Là, elle disait à quel point ça, au départ, les gens ne sont pas forcément d'accord. Et d'autant plus, et d'autant moins plus exactement, c'est que si on a fait tout un espèce d'histoire un peu romancée de vous allez accueillir une famille syrienne, alors tout le monde était prêt à accueillir la famille du petit Elan, hein, je suppose. Là on était tous prêts à accueillir. Et voilà j'arrive dans le terrain où ça va d'un côté, des grands soudanais. Les gens sont pas prêts, ça même quand c'est soudain, par sa petite place. Il faut aussi être prêt à la découverte. Et pour être prêt à la découverte, il faut avoir envie de rencontrer les autres. Et la culture aide à susciter cette envie. La littérature, le théâtre, même le cinéma. J'ai des débats après un certain nombre de films, et donc découvre autre chose. Et on va pas vers l'autre si on n'a pas envie. Et on a envie si on connaît quelque chose, et si on a envie de connaître quelque chose. Et c'est dans ces relations entre spiritualité et dans les deux sens, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que nous avons appris du Soudan. Qu'est-ce que nous avons appris de l'Éthiopie. Ça serait intéressant, parce que le jour où on prend en mesure de communiquer, où on s'intéresse aux gens sur leur pays, tout le monde aime son pays. Donc on sert des gens de culture, et une culture, vous avez une culture avant que nos ancêtres, les Gaulois, au Saint-Bonard. Je parle de la famille de la parole, si on ne s'intéresse pas aux gens, on ne pourra pas les accueillir. Si on fait tout simplement, c'est mon devoir d'aider ces pauvres malheureux, ça ne sera pas de l'accueil. Ça sera peut-être un peu d'hébergement, mais ça ne sera pas de l'accueil. Je pense que c'est en fait. Donc, pour sortir d'une identité soucieuse, c'est qu'il faut soucier les autres. C'est ça qu'on demande fond. Et puis, la question sur l'émigration des Français. Il y a beaucoup de Français qui quittent la France actuellement. Hein, je crois que c'était beaucoup, 130 000 l'année dernière, je crois. Mais vous savez tous qu'on ne les appelle pas des migrés, on les appelle des expatriés. Quand un Français arrive au Sénégal, il est expatrié. Il est expatrié. Quand un Sénégalais arrive en France, il est immigré dans le meilleur des cas et sans papier en général. Et là aussi, vous avez au début dit attention au langage. Les mots ne sont pas neutres. Dans les situations de tension, les mots employés ne sont pas neutres. Quand on entend dire, et heureusement on entend dire de plus en plus, les journalistes, les discussions avec les journalistes, ils disent, en parlant des gens qui traversent avec les réfugiés qui viennent de là. Ça, c'est une forme de reconnaissance qui, à notre goût, est un peu trop excluante que les autres, mais c'est une forme de reconnaissance qui ne sont pas des clandestins. C'est mieux que clandestins. Quand on dit, ah oui, c'est des clandestins qui ont débarqué en Sicile, vous vous rendez compte, dans les bateaux pneumatiques, quand on voit la réalité de ces gens qui souffrent mille morts, ça peut donner des articles terrifiants. Ça, c'est plus des femmes, des enfants. C'est absolument terrifiant. Aussi, les gens, cette curiosité est aussi très critique par rapport à ce qu'ils disent, non seulement. Les hommes politiques ou les femmes politiques, mais les médias. Je crois que c'est important.
Là, on peut faire un petit tour. Question courte, réponse courte.
Et à propos de la peur de voir s'infiltrer des terroristes en France. J'ai été assez stupéfaite de découvrir la réciproque de cette peur. L'autre jour, dans les paroles d'un évêque syrien venu en France, qui nous accusait d'envoyer nos terroristes en Syrie pour faire la guerre là-bas, et c'était nous qui étions donc responsables de la mort du Syrien sur le terrain. Et ce changement de perspective pour regarder les choses est quand même extrêmement troublant et il m'interroge beaucoup.
Ça va être une autre perspective, hein.
Une autre question ? Voilà, donc une.
Oui, moi je pense un petit peu aussi qu'il y a eu une chose.
Vous entendez ?
Il y a eu une, bon, autrefois une immigration portugaise, une immigration italienne, etc. Mais les gens qui venaient de ces pays n'avaient pas des habitudes de vie très très différentes des nôtres. Aujourd'hui, les gens, les migrants qui viennent ont des habillements, des habits très différents, des une culture très différente. Et je crois que c'est aussi la résine de problèmes pour l'intégration, pour l'acceptation qui sont utiles.
Une autre question ? Dernière question, parce que je ne sais pas si on aura le temps de refaire la troisième fois.
Les vagues d'immigration vers la France, comme vous savez, elles ont été, c'est Pologne d'abord, et puis ensuite le sud de l'Europe, et puis ensuite le Maghreb, c'est-à-dire nos anciennes colonies, Afrique du Nord et Afrique de l'Est. Et donc, il y a eu toutes ces vagues successives. On dit toujours, ah oui, c'était facile, les Italiens et les Portugais, ils étaient catholiques, ils sont blancs, tout ça, ils nous ressemblent et tout ça. Donc, il y a eu des morts. Actuellement, il n'y a pas de pogrom et de morts contre les immigrés. Il y a eu des morts véritables dans le sud de la France. Il y avait des bagarres terribles entre braves catholiques français et braves catholiques espagnols, des cités véritables, etc. Donc, des tensions, on a eu pour cause de travail et de tensions sur le travail. Actuellement, l'arrivée d'un certain nombre, pas d'un nombre très important, de migrants en provenance d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest a déjà introduit des formes de culture différentes. Mais c'était avec cette forme de domination, à propos de l'intégration de gens venant avec une culture différente, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'arrivée des Boys People. C'était dans les années 76, par là, 100 000 Vietnamiens sont arrivés en France en 2 ans. C'est loin les Vietnamiens. La langue n'a rien à voir. Et l'intégration et leur accueil dans la société française s'est très bien passé. Il y a beaucoup de raisons à ça. Mais la raison principale, c'est que cet accueil a été prévu, planifié, organisé avant qu'ils arrivent. Il y avait des comités partout, ils ont été mis dans la France aussi, c'est bien resté au Vietnam, dans la France. Ça a été très organisé du point de vue de l'État, mais aussi du point de vue des réseaux qui les accueillaient. Et ça s'est bien passé. Il y a aussi d'autres facteurs qui ont pu jouer, mais je pense que le facteur principal, or, il était d'une culture très différente, pour le coup, d'ailleurs. Mais parmi ceux qui arrivent maintenant, et là encore, il ne faut peut-être pas globaliser, il y a ceux qui arrivent du Moyen-Orient, on va dire Irak, Syrie, qui, pour beaucoup d'entre eux, sont très très occidentalisés, très laïcisés. Il y a des femmes, quelques femmes voilées, des femmes voilées, mais beaucoup qui ne sont pas. Ce sont des pays pas du tout fondamentalistes, ces deux pays-là. Le port du voile étant autre chose, c'est plus culturel. La distance. La distance est linguistique parce qu'ils ne sont pas du tout francophones. À la différence des autres, l'immigration, ça avait toujours un peu un fond de francophonie, là, pas du tout. Et En ce qui concerne la population syrienne qui a entrepris ces voyages, c'est plutôt Casmandène. Parce qu'il faut des moyens, il faut des moyens. La très grande majorité des Syriens sont au Liban, en Jordanie, dans les camps, voilà. Je ne sais pas si vous citez la phrase où vous référez, les gens en provenance de la corne de l'Afrique, là la distance culturelle est beaucoup plus grande encore. La Somalie, ça fait des pays qui sortent d'années, de décennies de situations dictatoriales, de chaos, etc. Et les gens qui n'ont pas, quand je dis culturel, au sens de pratique, de vie démocratique, de vie sociale. La Somalie, c'est un état failli, un état depuis des décennies. Rien ne marche en Somalie. Rien. Et donc, pour s'organiser, etc., les gens qui viennent de Somalie, parce qu'il fallait dire qu'ils n'en peuvent jamais aucune. Là, il y a la thèse vestimentaire dans les Somaliens sont très voilés. Je pense pas, je ne sais pas si cette question vestimentaire qui a fait couler tellement d'encre pour Kimi et autres cet été, ça ne concerne pas du tout des gens qui viennent d'arriver. Hein. Et ça, c'est tout ça dans les quartiers, etc. Alors qu'il y a une augmentation de ça dans les quartiers. Ça, c'est une grosse question. Là, on est qui n'a rien à voir, rien du tout avec les populations qui arrivent. Je pense qu'au contraire, je n'ai pas vu porter un peu plus large. Oui, mais pas du tout, je vois tout ça, pas du tout. Pas du tout. Les dames de la famille saoudite, elles sont pas là-dedans. Ça, c'est pas pour moi. C'est ce qu'on voit à Genève en été, mais pas en exil.
Encore une question, il y a des Jérémie à qui je vois, j'ai jamais aidé à mais avant de compter les Jérémie. Voilà. Après, je remercierai Samuel, c'est une dernière question. Non? En tout cas, merci à vous tous, oui, et je vous remercie.
Vous parlez des voix, les possibilités, tous les points archéologiques, les gens qui ont qu'on renvoie aujourd'hui pour faire la place pour nous étudier. Comment on peut lutter contre ça, contre l'organisation par l'État, c'est assez fait que ce qui change aussi, c'est plus grand, c'est pas le faire. Mais c'est très fort, la tête.
Oui, c'est pour faire de la place. C'est effectivement, parmi les personnes qui ont fait des demandes d'asile dans les années précédentes, 80% étaient déboutés. Et ces déboutés, la plupart ne repartent pas parce qu'ils ne peuvent pas concevoir de repartir d'eux-mêmes. Et le nombre de ceux qui sont renvoyés de force, même si nous trouvons qu'il est excessivement élevé et scandaleux, c'est très, très peu. Donc il y a des gens qui sont là. Et qui font l'expérience d'être sans papier avec toutes les difficultés. Pour ceux qui sont, qui étaient encore dans les centres d'hébergement, etc., il y a tout le discours, il faut que ceux qui n'ont rien à y faire partent, parce qu'on a plein de gens à y mettre. C'est une réalité. Il y a plein de gens à mettre dans les centres. Ce discours martial qui est tenu, c'est aussi pour faire passer le message « Ah, mais voyez, hein, on n'est pas laxiste. » Je crois qu'il y a, peut-être, des préfectures qui sont plus dures et plus que d'autres. Il y a un certain nombre de gens qui sont pourchassés parmi les délégués, et puis il y en a d'autres qui vont entrer dans une vie de sans-papiers pendant un certain temps, et qui ne vont pas rester dans les camps, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr que non. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi réussir l'accueil des gens qui arrivent. C'est vrai que c'est aussi important. Il ne faut pas que ça soit au détriment des autres. Mais les centres sont passés pour des gens qui ont tenté ce processus d'asile et qui ça n'a pas marché, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour eux de pouvoir rester en France. Et pas pareil. Et donc il faut qu'ils quittent les structures qui sont faites pour l'asile. Nous on dit qu'il ne faut pas du tout les renvoyer chez eux. C'est-à-dire, non, il faut imaginer autre chose.
Mais il y a ceux qui sont aussi faire plein leur première demande à la priorité,
oui.
Ils sont reconnus, mais ils ne sont pas
ils ceux-là, ils vont prendre en droit d'être hébergés. En procédure. Donc, avec la nouvelle loi, ils ont droit à avoir la protection de tout dispositif à vie jusqu'au rejet de la Cour nationale du droit d'asile. Après, non. Mais jusqu'à ce que la CNDA, la Cour du droit d'asile, est statuée. Donc, tout ça, c'est couvert par le dispositif à vie. Pas après. S'ils font des réouvertures, s'ils font tout ça, non. Mais tout le premier processus, c'est dans la nouvelle loi. Illégitime. Voilà. Elle peut avoir des problèmes de papier, ça c'est une question. Mais on ne la considérera jamais comme illégitime. Donc voilà, c'est de trouver des gens. Il y a des gens qui arrivent à survivre un temps suffisamment long pour ensuite pouvoir être régularisés dans des conditions très difficiles.